Gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi, de passer ces moments sous le regard de Dieu. On n'a pas l'habitude de prêcher le dimanche après-midi en message d'édification, de faire des cultes. On est plus dans des réunions d'évangélisation, mais qu'importe. Après tout, il n'y a pas un ordre de réunion, il y a la réunion. Et ce qui est important dans la réunion, ce n'est pas tant la réunion, c'est la présence du Seigneur. Et ce qui est important dans cet après-midi, c'est la présence de notre Dieu, ce Dieu que nous pouvons adorer et bénir. Amen. Ouvre avec moi la parole du Seigneur dans le psaume 73. Nous faisons cette lecture. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux dont le cœur est pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent, et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? » Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu réduis au silence tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Le thème de ma méditation sera les attitudes qui détruisent ma joie spirituelle. Nous allons parler dans quelques instants de la joie et nous avons part à la joie de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a des attitudes qui peuvent détruire cette joie, altérer cette joie que Dieu nous a donnée. Et ce qui est important, c'est de demeurer dans la joie du Seigneur. Nous découvrons un homme dans ce récit appelé Asaph. Et Asaph est un homme de Dieu qui, sous le règne du roi David, fut chargé de conduire Israël dans l'adoration. Il faisait partie de la tribu de Lévi, ce qui le destinait à servir Dieu toute sa vie. Cet homme a connu l'apostasie du temps du roi Saül, qui régna au moment de sa naissance. Mais lorsque David devint roi, il conduisit le peuple vers un réveil spirituel en rapportant l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et le jour De l'entrée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, il y avait une telle conviction de la présence de Dieu que tout le peuple éclata en chants de louange et en cris de joie pour l'honorer. Et c'est alors que nous rencontrons, pour la première fois, Asaph. Et de suite après, David chargea Asaph de célébrer les louanges de Dieu devant l'Arche de l'Alliance, et cela d'une manière permanente. Asaph, donc, possédait de grands dons spirituels et un potentiel remarquable. Et sa réputation fut telle qu'après sa mort, on parla de lui en tant que prophète, c'est-à-dire homme de l'esprit. Homme de l'esprit. Donc, cet homme Asaph était réellement un homme de Dieu. Mais dans le psaume 73, Asaph passe par un temps de crise. Et ce texte nous apporte la preuve que personne n'est à l'abri de moments difficiles. On peut avoir plusieurs années de conversion et passer par des moments difficiles. Et Asaph va passer par un moment terrible, terrible. Mais ce texte nous montre aussi et nous donne les clés du renouvellement de la joie spirituelle. Si nous avons perdu notre joie, il nous faut à tout prix la retrouver. Nous avons été créés pour la joie de vivre. Et la joie de vivre en Dieu, nous en parlerons dans quelques instants. Mais Asaph va remonter à la source de son problème. Et ce rappel, il va se rappeler le jour où il observa la vie abondante de ses voisins incroyants. Il a regardé voisin, dans le jardin du voisin et il s'est rendu compte que ses voisins incroyants vivaient dans l'abondance. Et entre autres, Asaph va dire ceci, « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils sont toujours heureux et ils accroissent leur richesse. » On va se rendre compte que dans ce temps de crise, Asaph n'est pas très objectif. Peut-être que ses voisins incroyants accroissent leur richesse, ça c'est vrai, mais toujours heureux, je pense pas. Rien ne les tourmente, ça m'étonnerait aussi. Ils sont chargés d'embonpoint, peut-être que oui. Il dit peut-être une vérité. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Je pense que c'est pas tout à fait vrai. Je crois que nous, chrétiens, nous pouvons tomber aussi dans ce piège en considérant peut-être l'abondance de nos voisins incroyants, ce que nous pouvons côtoyer, ce qui font notre quotidien, en voyant leur prospérité matérielle aussi, peut-être financière, la réussite de leurs enfants, nous pouvons, nous aussi, vivre des temps de crise. Alors, il y a ce temps de crise, mais il y a d'autres moments aussi difficiles par lesquels nous pouvons passer et qui peuvent altérer notre joie. Et dans ce contexte, on va se rendre compte qu'Asaph s'enlise tellement dans ses pensées qu'il ne trouve plus de solution et dit à un moment donné ceci, « Mes pas étaient sur le point de glisser. » Il se trouvait dans une grande difficulté. Lui qui menait la louange dans l'Église, lui qui célébrait Dieu, c'est un homme qui est sur le point de glisser. Cet homme de grande envergure, de grande réputation, c'est un homme qui est sur le point de glisser. Y aurait-il cet après-midi au milieu de nous quelqu'un qui serait sur le point de glisser, d'abandonner sa vie spirituelle? Mais en tout cas, ce que nous découvrons, c'est qu'Asaph a perdu sa joie de vivre en Dieu. La joie de la vie spirituelle, la joie de la communion avec Dieu, la joie de son service, la joie de venir à la maison de Dieu, perdre sa joie. C'est le pasteur David Wilkerson qui a dit ceci, l'un des plus grands drames que connaît l'Église à notre époque et qui est aussi l'une des plus grandes souffrances de Dieu, c'est le manque de joie chez les chrétiens. La vie chrétienne est une vie de joie. Non ? Malgré nos luttes, nos combats, non ? Malgré nos difficultés, malgré nos épreuves, il y a de la joie. Il doit y avoir de la joie dans le cœur des chrétiens. Oui, nous avons des luttes et des combats. Oui, nous avons des difficultés. Mais quelle joie de le connaître. Notre frère nous a fait chanter tout à l'heure ce magnifique chant. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul dit ceci, parlant du fruit de l'esprit, il dit que c'est l'amour, c'est la joie et c'est la paix. Et le mot joie, dans le grec, veut dire en réalité joie de vivre. Joie de vivre, une véritable joie de vivre. Un bien-être, il parle de bonheur. Et la vie chrétienne n'est pas une vie faite seulement de moments de joie. Ce n'est pas une vie faite de moments de joie où le peuple de Dieu se rassemble, comme cet après-midi, la joie d'être ensemble, la joie de se connaître, la joie de connaître l'Église. C'est bien plus grand que cela. C'est une joie de vivre, la joie de vivre avec le Seigneur. Et j'aimerais vous poser la question, y a-t-il dans votre vie une véritable joie de vivre pour le Seigneur ? Et l'apôtre nous dit que cette joie est avant tout l'un des traits de la présence du Saint-Esprit en nous. Il y a la joie, il y a d'abord l'amour, il y a la paix, il y a la patience, il y a d'autres vérités, mais la joie n'est pas la joie éphémère de ce monde. C'est la joie qui est avant tout l'un des traits de la présence de Dieu dans ma vie, un des aspects du résultat de son travail dans mon cœur. Moi, je crois que plus on grandit dans la vie spirituelle, plus notre joie doit être grande. Je ne sais pas comment a été votre joie le jour de votre conversion, mais moi, j'étais dans un moment de joie extrême. Ce fut un bonheur sans pareil. Moi, je me rappelle du jour de ma conversion. Ça a plus de 30 ans maintenant, mais c'est comme si c'était hier. Et ce qui est important, c'est que je demeure dans la joie et que cette joie grandisse. Non, pensez pas. Cette joie grandisse. Cette joie de vivre avec le Seigneur. Cette joie de sa présence dans ma vie. Et le peuple de Dieu doit être un peuple heureux. Et Néhémie, avec raison, dira « La joie de l'Éternel, c'est ma force. » Va donner de la force à toute ma vie. On identifie trop souvent les chrétiens à des gens sombres et austères, menant un style de vie où le bonheur et la joie ont disparu. Ça arrive, hein ? Quelle joie ! Quelle joie ! Hein ? La joie, ça se voit. La joie, ça s'exprime. David dit dans le psaume 116 ceci, « Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » D'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est la joie de connaître la présence de Dieu en toutes circonstances. Et je crois que nous avons besoin d'aspirer à plus de joie dans notre vie présente, non ? Amen. Dans notre vie à venir, mais dans ce moment présent, véritable joie. Si je réalise un peu, simplement, si je m'arrête un instant et que je pense à ce que je suis devant Dieu, hein, à son salut, quelle joie, malgré toutes les difficultés que nous pouvons passer. Je dis souvent à Marignane que notre grand privilège, c'est de passer nos difficultés avec l'aide de Dieu et dans la présence de Dieu. Ça, c'est une grande joie. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il y a de la joie. Il y a de quoi se réjouir. Et même si la vie peut sembler difficile, et il est vrai que l'apôtre Paul dira aussi, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y a des temps de souffrance et de douleur, ça c'est vrai. Mais néanmoins, nous avons été créés pour la joie. Je disais samedi aux jeunes que Dieu a pour nous une vie bien meilleure. Moi, j'ai accepté la vie de Dieu parce qu'elle était meilleure. Elle était bien meilleure. Quand je me suis converti, ma vie n'était pas comme certains qui sont revenus du fin fond de l'enfer. Situation terrible. Moi, j'avais 16 ans. Mais j'ai accepté la vie de Dieu parce que j'ai compris qu'elle était bien meilleure. Bien meilleure. Moi, j'étais un jeune, j'étais sportif. J'étais plein de joie. Franchement, je vivais. Hein. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, ça m'a donné une vie bien meilleure. Et je crois que nous avons été faits pour une vie bien meilleure. Hein. Et je ne suis pas devenu triste en devenant chrétien. Je ne suis pas devenu triste en devenant chrétien, mais on est devenu joyeux. La joie de vivre est en nous. Et la première Église connaissait cette joie de vivre dans le Seigneur. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Hein, et nous découvrons dans Actes Acte 2, 42, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la prière, la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Et un petit peu plus bas, il nous a dit qu'il rompait le pain dans les maisons, il prenait leur nourriture. Moi, j'aime beaucoup cette expression, avec joie et simplicité de cœur. Je crois que ce sont deux éléments sur lesquels il nous faut revenir. Ils sont indissociables. Je crois que nous avons besoin de cette joie. Mais je pense que dans notre vie spirituelle aussi, on a besoin de revenir à cette simplicité de la vie. Vous ne pensez pas ? Revenir à cette simplicité de l'Évangile, vivre avec le Seigneur. Vivons-nous encore dans la joie de notre salut ? Bon, quand je vois l'histoire de l'eunuque éthiopien, moi je suis émerveillé. Il poursuivit sa route, tout joyeux, tout joyeux. Il vient de rencontrer le Seigneur. La Bible nous invite à nous réjouir de notre salut. Et le salut, personne ne pouvait le payer. Le salut est devenu gratuit parce que Jésus l'a payé, mais il a payé cher pour nous. Il est devenu gratuit, mais de notre salut, il nous faut se réjouir chaque jour. Chaque jour, je dois me réjouir de mon salut. Quel salut immense! Je ne pouvais le payer. Je pense que même tout l'or du monde ne pouvait payer mon propre salut. Dieu l'a payé pour moi. Alors, frères et sœurs, cet après-midi, j'aimerais vous dire, ne permettez pas au diable de vous ravir la joie de vivre dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Analysons ces quatre mauvaises attitudes qui privèrent Asaph de la joie de Dieu. Parce qu'après tout, dans ce moment-là, il est privé de la joie de Dieu. Comment retrouver cette joie ? Et peut-être certains ont perdu leur joie, cette véritable joie de vivre dans le Seigneur. Comment la retrouver ? Il y a quatre mauvaises attitudes. La première des choses, nous l'avons lu au verset 21, il s'est laissé gagner par l'aigreur, Asaph, lorsque mon cœur s'est grissé. L'aigreur décrit le mécontentement d'un esprit rempli de ressentiment. Il est devenu tout simplement amer. Il a oublié toutes les bénédictions de Dieu à son égard. Il ne les voit plus et il ne les considère plus. Il a vite tourné la page. Et je crois que c'est humain tout cela. Et nous pouvons, nous aussi, très rapidement tourner la page sur ce que Dieu a pour nous. Et Asaph va le faire. Il va devenir amer. Il est un petit peu semblable au peuple de Dieu qui arrive à Mara. Vous connaissez cette histoire ? Dieu a ouvert cette mer rouge et ils ont traversé. Et après quelques jours de marche, ils vont se retrouver à Mara. À Mara, l'eau est amère. Mais je pense qu'au-delà de cette eau amère, le cœur de ce peuple est amer et a besoin d'être purifié. Et très rapidement, on va se rendre compte que ce peuple va murmurer, ce peuple va manifester son mécontentement. Et je crois que ça vient vite aussi dans nos vies. Et nous devons veiller sur nos propres vies. Et on va se rendre compte que Asaph va ruminer des paroles négatives. Il va devenir envieux. Il va voir ceux de dehors, il va se dire, mais ils ont plus que moi. Il va devenir envieux. J'aimerais simplement vous dire, de la part de Dieu, j'en ai parlé ce matin, je voudrais en reparler avec vous cet après-midi, le secret de la joie, c'est le contentement. C'est le contentement. Et c'est l'apôtre Paul qui dit ceci, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Donc, on va se rendre compte que le contentement n'est pas inné chez l'homme. Et l'apôtre Paul a appris le contentement. Ce grand homme de foi, cet homme qui a marqué la vie de la première Église et qui marque encore nos cœurs par ses écrits, a appris le contentement. Et le contentement est une grande école, une grande et belle école. Apprendre à être content. Il nous faut apprendre à aimer ce que l'on a. Je pense que c'est ça le contentement. Hein ? En attendant ce que l'on aime, c'est ce que je disais. Je trouve cette définition tellement belle. Apprendre à aimer ce que l'on a. Et on va se rendre compte que Asaph ne regarde plus ce qu'il a. Il est tellement interpellé par l'abondance de ses voisins croyants qu'il en oublie ses propres bénédictions et il passe en revue tout ce que ses voisins ont et il oublie ce qu'il a. Hein ? Et il en demande plus. Il en demande plus. L'apôtre Paul dira que c'est une grande source de gain, que la piété et le contentement, ça veut dire que nous pouvons être des chrétiens malheureux et tristes. Oui. Mais ce qui fera notre force dans la vie spirituelle, c'est le contentement. Être content de ce que l'on a en attendant ce que l'on aime. Alors l'apôtre Paul a connu aussi tous ces sentiments négatifs que nous pouvons connaître dans ces temps difficiles. Oui, dans les temps difficiles. Il a appris, en tout cas, à fixer ses yeux sur les véritables valeurs. Et cet après-midi, j'aimerais vous le dire aussi, apprenez à fixer vos yeux sur les véritables valeurs, sur les valeurs spirituelles, à fixer vos yeux sur le Seigneur. Et il a appris à surmonter chaque situation en comptant sur Dieu, sur Dieu. Des situations difficiles, des fois, des moments où nous pouvons être frustrés dans notre vie spirituelle. Mais le contentement fut toute la force de sa vie spirituelle parce qu'il a appris en tout à faire confiance au Seigneur. Le premier point, pour conserver sa joie spirituelle, il faut vivre le contentement. Le contentement. Et apprendre le contentement. C'est une magnifique école. Et cette école, Dieu veut que nous la vivions, et les leçons du contentement seront de grandes leçons pour notre vie spirituelle. Donc, première des choses, première attitude qui nous conduiront, la première attitude qui nous conduira, pardon, à vivre la tristesse, c'est le mécontentement. Mais la deuxième des choses, on va se rendre compte que Asaph va se laisser gagner par l'intempérance. L'intempérance. Il dit quelque chose qui m'a toujours surpris. Il dit ceci: j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Pourquoi parle-t-il des bêtes? Une bête agit en fonction de ses sens. Elle manifeste des réactions incontrôlées dans des situations données. Prenons l'exemple d'un chien. Vous le mettez en difficulté, vous approchez de lui, vous lui faites peur, ou le chien s'en va, il fuit, ou le chien vous agresse. Vous l'avez remarqué? Hein? Tout simple. Il réagit par rapport à ses sens. Et Asaph passe par un moment difficile, et il dit à Dieu: j'étais devant toi, face à cette situation, j'étais devant toi comme une bête, comme une bête. Alors, des hommes de Dieu qui ont fui des situations difficiles, il y en a. Il y a d'abord Moïse. Moïse, quand on lit un petit peu sa vie, c'est un homme intempérant, Moïse. Il a sur sa vie un magnifique appel. Dieu a pour lui un plan merveilleux, comme il a un plan pour notre vie, et certainement un magnifique appel pour nous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il attrape un Égyptien et il le tue. Il le tue. Il l'enterre. Et puis après, un Hébreu le voit, etc. Nous connaissons l'histoire. Et qu'est-ce qu'il va faire après cette situation? D'intempérance et difficile, il va fuir. 40 années. 40 années. Et puis, on a un autre homme intempérant, hein, c'est Jonas. Le Seigneur l'envoie à Ninive et il part à Tarsis. Hein, il est complètement intempérant. Hein, c'est surprenant. C'est surprenant ce qu'il fait. Pourtant, là aussi, il y a un magnifique appel. Et puis, on va se rendre compte qu'il n'y a jamais eu un réveil aussi grand que celui de Ninive. Une œuvre extraordinaire de Dieu avec un homme intempérant. Un homme qui ne veut pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Et puis, il y en a un quatrième, un troisième, c'est Élie. Lui aussi, Dieu se sert de lui. Il vit un moment de crise, hop, et il fuit dans le désert. Il fuit dans le désert. Hein? Il fuit cette situation difficile. C'est Jézabel qui lui fait quelques menaces. Jusqu'à ce jour, il a mené de front l'œuvre de Dieu. Il a vu des choses extraordinaires. Et puis, dans une situation difficile, il fuit. Si vous regardez ces trois hommes qui fuient, tous les trois vont demander la mort dans le désert. Demander tous les trois la mort. Seigneur, on ne peut plus vivre. C'est de l'intempérance. C'est de l'intempérance. Ils ont agi avec intempérance. Et je crois que nous pouvons, nous aussi, vivre cette situation et fuir ce que Dieu nous demande de faire et d'être. Nous devons faire attention. Peut-être y aurait-il au milieu de nous quelqu'un qui revient au Seigneur après des années d'absence dans son Église, des années d'absence dans son service. Puis on peut être des chrétiens aussi dans l'Église, où on fuit l'appel de Dieu, où on néglige l'appel de Dieu, on néglige de vivre sa consécration, on fuit Dieu, et les réalités de la vie spirituelle peuvent être un danger, manifestation d'intempérance. Dans sa situation difficile, Asaph, lui, va agresser Dieu verbalement. Quand vous lisez ce psaume, vous êtes étonné, et nous y reviendrons dans quelques instants. J'ai une mamie dans l'église qui passe son temps à se disputer avec Dieu. Je dis, c'est pas possible. Un jour, je dis, mais c'est pas possible.
Un jour, je frappe à sa porte, elle me dit « Je viens de me disputer avec Dieu. » Je lui ai dit ce qui n'allait pas. Des gens comme ça. Et Asaph, quand on lit ce texte, il est surprenant dans ce qu'il dit. Il est surprenant dans ce qu'il dit. Mais après tout, il y a tant d'autres exemples. Vous avez le peuple d'Israël dans le désert. Chaque moment difficile va entraîner murmures et contestations. Contre Moïse, contre Dieu. Ça ne va jamais. Ça ne va jamais. Et puis nous nous retrouvons avec notre Jonas. Hein ? Le Seigneur va lui donner un magnifique rissa pour l'abriter de la chaleur. Et puis il y a un ver, oui, ça existe dans la terre. Un ver qui va piquer son ricin, le ricin va mourir, et puis nous voyons cet homme intempérant qui se met en colère. Hein? Et des fois, il en faut peu pour que nous soyons en colère aussi. Hein? On n'est pas content dans bien des domaines, et nous devons faire attention à ces temps difficiles par lesquels nous pouvons passer, qui créent en nous des crises. Et puis, dans un temps de crise, il y a bien des choses qui se passent. Pierre, dans un temps de crise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir son épée, il va couper les oreilles. Hein? Couper l'oreille de ce serviteur. Il est dans un temps de crise et le Seigneur lui dira « Écoute, rentre ton épée. Hein? » Et quand on est des fois en colère, pour mille et une raisons, on est capable de sortir l'épée que nous avons entre la langue, entre les dents, la langue, et là aussi, on peut l'exercer. On est des fois tellement intempérant, non? Tellement intempérant. Mais j'aimerais vous dire, dans ce texte, c'est que la joie réclame l'intelligence spirituelle. Et Asaph dira, j'étais stupide. Et bien des fois, nous le sommes. Bien des fois, nous le sommes. Il dit, j'étais sans intelligence. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant sans intelligence? J'étais sans analyse spirituelle de la situation. J'étais sans bon sens, établi sur l'expérience qui m'a empêché de mettre ma confiance dans le Seigneur. L'intelligence spirituelle me donne d'entrer dans les pensées de Dieu et de comprendre la volonté de Dieu. Sans intelligence, je suis agité, je suis troublé, je fuis et je suis agressif. Mais l'intelligence spirituelle me donne de marcher d'une manière digne du Seigneur et de vivre chaque situation dans la paix de Dieu. Dans la paix de Dieu. Ce matin, cet après-midi, il nous faut une analyse juste, peut-être de la situation par laquelle nous passons, par laquelle vous passez. Une analyse juste. Une analyse qui va avoir besoin de bon sens, qui sera établie sur l'expérience, parce qu'après tout, ce n'est pas la première crise que vous passez, peut-être pas le premier moment difficile par lequel vous passez. Mais le fait est certain, c'est que notre vie doit faire confiance au Seigneur, quoi qu'il advienne. Et quand bien même notre voisin serait quoi? Serait dans l'abondance, qu'importe. Ce qui m'importe, c'est de faire chaque jour confiance au Seigneur. Ce qui nous prive de la joie, c'est notre intempérance. Troisièmement, il se laissa gagner par l'apitoiement sur soi. Il dit des choses terribles, Asaph. Il va dire à Dieu, chaque jour je suis frappé et tous les jours mon châtiment est là. C'est surprenant ce qu'il dit. Il dit tout simplement à Dieu, tu ne t'occupes que de ceux qui se moquent de toi. Tu les laisses prospérer. Mais moi, ton enfant, tu me frappes tous les jours. Il utilise le mot châtiment pour décrire l'action de Dieu. Il dit, j'aurais pensé que tu me traites mieux, que tu m'accordes plus de privilèges, plus d'abondance et plus de bénédictions. Il dit en fait, Seigneur, regarde-moi bien, je mérite mieux. Voilà ce qu'il dit. Hein? Je mérite mieux. Seigneur, il faut que tu te débrouilles, mais je mérite mieux. Il va commencer à s'apitoyer sur lui-même. Je lisais le témoignage d'une femme qui disait ceci. Autrefois, l'auto-apitoiement était un véritable problème pour moi. Chaque fois que le diable organisait une séance de pleurs, je répondais présente. Hein? Dans l'apitoiement sur soi, il y a un aveuglement spirituel sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu fait. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu généreux, un Dieu bon, qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Et le secret de ma joie, c'est de m'épanouir en Dieu. De m'épanouir en Dieu. Moi, j'aime beaucoup le psaume 37, quand il me dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. C'est le secret de ma joie. Paul dira à Timothée que Dieu peut nous donner tout avec abondance pour que nous en jouissions, nous profitions de la vie. Et c'est tellement important. Dieu prend soin de notre vie ici-bas. Il sait de quoi elle est faite. Et il veut pourvoir à nos besoins. C'est un Dieu qui est généreux et un Dieu qui est bon. Enfin, quatrièmement, il se laissa gagner par la déception. Il va dire, toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il est déçu, il est déçu. Asaph ne semble pas être récompensé pour tout le travail fourni. Il dit à Dieu, mais je te sers, je suis dans ton temple, je travaille pour toi. Tu ne me récompenses pas. À quoi bon te servir, Seigneur ? On va se rendre compte que dans ce texte, Dieu est la source de sa déception. Il dit à Dieu, mais Seigneur, ça ne va pas. Alors le pasteur, nos frères aussi peuvent être des sources de déception. Je crois que nous avons tous été déçus d'une manière ou d'une autre. Hein ? Mais il y a un texte qui est important de relever, c'est ce que dit David dans le psaume 31. Et au verset 2, il dit à Dieu, « J'aurai recours à toi, Seigneur. Ne me laisse pas déçu à jamais. » Il peut être déçu dans la vie spirituelle. Et là, Asaph a été déçu de Dieu. Il y a eu un temps de difficulté. Il n'a pas compris la volonté de Dieu. Il n'a pas compris les choses de Dieu. Il n'a pas su gérer ce temps de crise. Et il est déçu de Dieu. Il est déçu de Dieu. Et peut-être... Parmi nous, il y a quelques chrétiens déçus de Dieu. On pensait que Dieu ferait mieux pour nous, hein? Que Dieu aurait de plus grandes bénédictions. On est déçus de Dieu. David, à un moment de sa vie, va connaître aussi cette déception de la vie. Et il fait cette magnifique prière. « J'aurai recours à toi, Seigneur. Ne me laisse pas déçu à jamais. » David nous montre que la déception peut être un état moral et spirituel. Moi, j'aimerais vous dire qu'un homme déçu n'est plus bon à rien. Dans l'Église, vous ne ferez rien si vous êtes déçu. S'il y a au milieu de nous un frère, une sœur déçu, pour mille et une raisons, il faut crier à Dieu, il faut revenir à Dieu. Votre situation ne permettra pas à Dieu de se servir de vous. Un homme déçu n'est plus bon à rien. La déception n'engendre rien de bon, si ce n'est l'aigreur, le mécontentement et la critique. Il va falloir, avec l'aide de Dieu, apprendre à les dépasser, à les affronter et à les dompter. Et à les dompter. Le secret de la joie de vivre en Dieu, c'est de donner, c'est de servir et c'est de s'investir. Un homme déçu, c'est un homme qui ne fera rien, qui n'agira pas. Mais le secret de votre joie, c'est de donner. C'est de servir et c'est de s'investir. Je parlais avec les jeunes de Gédéon. Il a appris tout à nouveau à donner à Dieu. Et bien sûr, il y a plus de joie à donner dans le royaume de Dieu qu'à recevoir. Et cet après-midi, Dieu vous invite à sortir de votre vie de déception pour retrouver une vie de service et donc une vie de joie. En conclusion, deux choses importantes pour revenir dans la joie de vivre dans le Seigneur. Il y a deux choses. D'abord, Asaph va reconnaître cette attitude, ces attitudes négatives. Il dit quelque chose de très important que je trouve au verset 21. Il dit « Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans mes entrailles ». Le mot « percé » en hébreu décrit la morsure d'un serpent. Asaph admet qu'il se laissa mordre par le père du mensonge. Moi, j'aimerais vous rappeler que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous avons besoin de connaître les intentions du diable à notre égard et son but ultime, de nous éloigner de la volonté de Dieu et donc de perdre notre joie. Il dit, j'étais percé, j'ai été mordu. Permettez à Dieu de vous restaurer et de vous bénir. Et le secret du renouvellement de sa joie, bien sûr, c'est ce magnifique verset 7, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Il a eu besoin de revenir dans la présence de Dieu. Et quand il parle des sanctuaires de Dieu, il ne parle pas du lieu, il ne parle pas du temple. Il y était chaque jour. Mais il parle de sa présence. Asaph avait besoin d'être touché par la présence bénie de Dieu. Il avait besoin de la bénédiction qui jaillissait de sa présence. Et c'est la présence de Dieu qui sera sa source de changement d'attitude et de renouvellement dans sa vie intérieure. Et c'est lui qui dira au Seigneur, « Tu es toujours avec moi. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. » Alors nous découvrons ce grand homme de Dieu qui est passé par un temps de crise, mais une crise profonde qui l'a amené même à glisser dans sa vie spirituelle. Il était sur le point d'abandonner Dieu. C'est un homme de Dieu qui a perdu sa joie de vivre dans le Seigneur. Et ça peut arriver à quiconque. À quiconque. Y aurait-il un Asaph au milieu de nous cet après-midi? Il y a des temps de joie et de renouvellement de joie. Cet après-midi, il faut reconnaître ses attitudes négatives. Il faut venir dans la présence de Dieu et permettre au Seigneur de changer ses attitudes et de renouveler en vous un cœur bien disposé. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes heureux d'être là devant toi. Merci pour le témoignage de cet homme Asaph. Merci pour ce que ce récit nous enseigne. Cet après-midi, nous avons besoin de ta joie. Nous ne pouvons pas vivre sans ta joie, la joie de vivre avec toi, la joie que tu nous donnes de vivre chaque jour dans ta présence, malgré nos luttes et nos combats. Seigneur, je te prie pour cet auditoire, ces amis qui sont là et qui ont tant besoin de toi, les amis qui sont sur le point de glisser, d'abandonner leur vie spirituelle. Je te demande de les bénir. Je te demande de bénir tous ceux qui sont là, qui ont perdu leur joie de vivre. Seigneur, le secret, c'est ta présence. Pénétrer tout à nouveau les lieux de Dieu. Venir dans sa présence, qui est source de bonheur. Oui, Asaph avait raison quand il disait, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Ce fut le secret de sa restauration et de sa bénédiction. Seigneur, donne-nous de nous approcher de toi dans la repentance. Donne-nous de nous approcher de toi avec des cœurs humbles et vrais, dans le nom de Jésus. Amen.